Alors comme ça, vous êtes en public, Mathieu Vidard.
Oui, mais sans invité, ce qui est embêtant quand même. Donc si jamais vous croisez dans les couloirs Jean-Didier Vincent, vous lui dites de monter au 6e.
D'accord. Hein,
on sera très heureux de l'accueillir dans un instant pour parler
bon
effectivement.
Courage bah, et bonne chance.
Merci beaucoup, je sens que ça va être très très long cet après-midi.
Ah oui.
Allez, à tout à l'heure, passez nous voir si vous voulez, Laetitia.
Pas de problème, je connais plein de choses sur la science.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Certains considèrent le cerveau comme l'objet d'études scientifiques le plus complexe, souvent comparé aux milliards d'étoiles ou de galaxies dans l'univers. Les différents circuits qui forment notre organe de la pensée sont impliqués dans un nombre considérable de fonctions et de comportements. Le neurophysiologiste Jean-Didier Vincent publie aux éditions du Seuil « Le cerveau expliqué à mon petit-fils », mais aujourd'hui c'est à une classe de 4e qu'il va raconter les différentes facettes du fonctionnement cérébral, s'il arrive. En tout cas, en attendant, je salue les élèves du collège Saint-Exupéry à Paris, qui sont de retour dans l'émission. Bonjour à vous tous, Jean-Didier Vincent qui répondra également à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Un programme de recherche inédit sur les mémoires traumatiques liées aux attentats du 13 novembre et c'est aujourd'hui à la une de la science. Bonjour Catherine de Coppet.
Bonjour Mathieu. Première mondiale par son ampleur, ce programme baptisé simplement 13 novembre vient d'être lancé. Il sera basé entre autres sur les témoignages d'un millier de personnes interviewées sur une dizaine d'années.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouvons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy. Fanny Texier est aux commandes de cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati. Et donc à la une de la science aujourd'hui, ce programme 13 novembre, où comment observer scientifiquement les évolutions des mémoires individuelles et collectives.
On sait qu'il y a des troubles qui vont s'enquister, qui vont durer, qui vont être extrêmement pénibles.
Quels troubles par exemple?
Des reviviscences entre des flashs, les images qui reviennent, des odeurs qui reviennent. Et tout d'un coup on a l'impression de se retrouver dans l'attentat même 6 ans après. Quand c'est trop envahissant, on peut être totalement coupé du monde, de la réalité, tellement c'est violent.
La voix de la chercheuse Hélène Romano, c'était le 15 novembre 2015 justement. On vient de l'entendre, la question du traumatisme des attentats concerne au premier chef les personnes directement exposées, Catherine de Coppet. Hein.
Oui, en tout, 1 million de personnes volontaires vont être interviewées pour ce programme de recherche. Les personnes les plus touchées donc, mais pas seulement. 13 novembre se veut par ailleurs pluridisciplinaire, en associant sciences humaines et neurosciences notamment. À côté de cette étude, d'autres recherches seront menées autour de la question du dialogue entre mémoire collective et mémoire individuelle. On va voir ça tout de suite.
Bonjour Denis Péchanski.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur au CNRS, vous êtes en studio avec nous. Puis par téléphone, Francis Stage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neuropsychologie à l'INSERM, à l'EPHE et à l'université de Caen. Et vous êtes donc en ligne avec nous. Qu'est-ce qui a poussé à monter un tel projet, Denis Péchanski?
Le 13 novembre, ça devrait suffire à soi-même. Mmh. C'est-à-dire face au choc, que peut faire la communauté scientifique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos armes à nous? Alors, on a une petite expérience avec Francis Stage, puisque lui, neuropsychologue, et moi, historien, nous travaillons déjà depuis plusieurs années sur la question de la mémoire, et en particulier de l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. D'ailleurs, on était venu en parler chez vous. Et là, on s'est dit, il faut essayer de comprendre non pas l'événement lui-même, je veux dire, actuellement, il y a 80 000 pages dans le dossier judiciaire. Et le moment venu, il y aura des historiens pour faire le travail, des sociologues. Bon. Non, là, l'idée, c'est de prendre comme objet la mémoire de l'événement. La mémoire d'un événement traumatique. Et traumatique pour des individus, bien entendu. Ceux qui étaient au Bataclan, ceux qui étaient à Saint-Denis, ceux qui étaient sur les terrasses. Mais aussi traumatique pour la société. D'où l'intérêt de cette articulation-là.
Francis Eustache, vous vous êtes inspiré de ce qu'avait lancé le psychologue William Hurst après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, je crois. Vous dites que finalement, ces attentats du 13 novembre 2015 peuvent être vus comme une sorte d'opportunité scientifique. On peut oser cette expression?
Bon, je n'aime pas tellement le terme d'opportunité, non. Je préfère la présentation que vient de faire Denis. Denis a présenté le contexte de nos travaux sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'inscription dans les mémoires, à la fois collectives et individuelles, et donc après le choc des attentats du 13 novembre, et avec l'appui à la fois du CNRS et de l'INSERM, puis ensuite de beaucoup d'autres, eh bien, nous avons souhaité transposer ces méthodologies et ces concepts à ce qu'on pourrait appeler l'histoire en marche, avec un point de départ qui est bien sûr ces attentats du 13 novembre et puis tout ce qui va survenir par la suite, avec différents volets, des volets en sciences humaines et sociales, cette grande étude sur 1000 personnes, et puis une étude qu'on appelle ancillaire, qui est une étude biomédicale sur le stress post-traumatique. Et nous avons souhaité, avec Denis et avec tous les collègues qui nous ont rejoints, que ce soit vraiment un programme transdisciplinaire avec plusieurs projets qui ont leur raison d'être, qui ont leurs questions. Et puis en même temps, ces différents projets sont liés les uns aux autres. Et c'est comme ça que l'on doit comprendre comment ces souvenirs, comment ces mémoires vont s'inscrire à la fois dans les cerveaux de chacun, et puis dans la mémoire, dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire sociale.
Alors on va reparler de l'étude biomédicale, mais avant, Denis Péchanski, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu comment on va retracer justement le lien entre la construction de la mémoire individuelle et de la mémoire collective, c'est-à-dire à la base, il y a 1000 personnes qui vont témoigner sur 10 ans, c'est ça le protocole ?
Le protocole, c'est simple et à la fois extrêmement compliqué. On prend 1000 personnes et on les interviewe maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.
Des personnes qui étaient sur les lieux de l'attentat et des personnes de la société.
On prend en fait tout l'échantillon, si je puis dire. C'est-à-dire on part de ce qu'on appelle le cercle 1, c'est-à-dire ceux qui ont été les survivants, les familles, les intervenants, hein, magistrats, policiers, services municipaux, etc. Et puis cercle 2, les personnes du 11e, du 10e, de Seine-Saint-Denis qui n'étaient pas témoins, mais qui ont été impactés au plus proche. Le cercle 3, c'est le reste de la métropole parisienne. Et puis, on prend 3-4 villes de province. Ce qui fait qu'on aura, d'une certaine façon, non pas une représentativité, mais au moins un échantillonnage qui nous permettra de comprendre vraiment, dans sa diversité, l'impact de cet événement traumatique.
Donc ça nécessite plusieurs laboratoires, effectivement. On le voit bien, parce qu'il y a différentes disciplines qui vont intervenir pour en traiter tous les aspects.
Écoutez, on avait déjà commencé avec l'équipement d'excellence dont j'ai la responsabilité scientifique, Matrice. Et là, c'est vrai, on a 10 disciplines convoquées. Oui. Alors, ça semble évident, le droit, l'histoire, la sociologie, mais quand vous avez rajouté les neurosciences, la neuropsychologie, la psychopathologie, la santé publique, puisqu'il y a une enquête de santé publique menée par Santé publique France en parallèle, que vous rajoutez les mathématiques et l'informatique, l'éthique, la textométrie, vous voyez que là, on essaye... Alors, c'est important le mot transdisciplinaire, c'est un peu barbare, mais... On préfère ça à interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. On ne convoque pas des disciplines pour répondre à une question posée par une des disciplines. On construit ensemble un objet de recherche. On construit ensemble un objet scientifique. Et je vous donne un seul exemple pour les témoignages, là, les enregistrements qui ont commencé. Il y a un guide d'entretien extrêmement riche, avec un manuel, et ça a été élaboré,
co-élaboré.
En commun.
Oui, co-élaboré.
Et c'est ça qui est passionnant. Je peux vous dire que cette expérience-là, je l'avais pas, alors que je suis certes très jeune, mais plus vraiment très jeune, et donc j'ai une vraie expérience de ce que peuvent donner des équipes de recherche. Et là, il y a quelque chose qui pour moi est exceptionnel, mais c'est aussi exceptionnel en lien avec l'objet d'étude quand on travaille sur le. Évidemment, sur le 13 novembre, ça dépasse quoi ce qu'on fait. C'est, comment vous dire, il y a comme une mission citoyenne du chercheur qui est convoqué là, évidemment.
Quels sont les enjeux plus précisément pour l'historien que vous êtes, Denis Péchanski, dans un tel travail ?
Je peux vous dire que pour l'historien, c'est pas très simple. Hein. Parce que déjà, comme historien du temps présent, on me dit « Ah oui, c'est bien gentil ce que tu fais sur Deuxième Guerre mondiale à nos jours, mais enfin, c'est un peu du journalisme. »
Historien sur un an.
Voire sociologue, ce qui est encore pire. Mais là...
Ils apprécieront.
Ça va être bien avec mes collègues qui travaillent avec moi. Ouais, ouais. Mais surtout qui sont vraiment en pointe dans notre affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Vous vous rendez compte, c'est l'histoire d'un événement en train de se construire.
Il y a l'enjeu de construire un patrimoine aussi avec les archives, c'est-à-dire que tous ces témoignages vont être collectés par l'INA.
Bien sûr. INA, ECPAD, et c'est l'INA qui garde ça, Institut National de l'Audiovisuel, donc il y a une dimension évidemment patrimoniale.
Allez, dernière question à Francis Eustache.
Francis Eustache, oui, pour revenir à cette étude biomédicale qui va faire intervenir 180 personnes issues, si j'ai bien compris, du millier de personnes, l'idée c'est d'avoir plus de connaissances sur les troubles du cerveau dans l'état de stress post-traumatique, c'est bien cela ?
Oui, exactement. Et comme l'a dit Denis, c'est aussi une partie du programme. Hein. Donc c'est bien une étude qu'il faut lire dans l'ensemble du programme. Donc même si cette étude se fait à Caen, alors que les autres entretiens se font en grande partie à Paris, donc ce sont des personnes qui sont soit cannaises, soit des personnes qui vont venir de ce qu'a été appelé tout de suite le cercle 1, c'est-à-dire des personnes qui ont été exposées aux attentats. Et on va s'intéresser là à une dimension de l'état de stress post-traumatique, qui est le trouble de la mémoire, le trouble central de la mémoire, qui a été bien rappelé d'ailleurs dans le petit extrait au tout début de l'émission. Ce sont ces reviviscences, ces flashbacks, ces souvenirs traumatiques qui sont pas vraiment des souvenirs parce que ce sont des images, des pensées qui s'imposent au sujet. Et le sujet a l'impression de les revivre au présent, à la différence d'un souvenir. Hein. Un souvenir, on le revit, mais on a bien conscience que c'est quelque chose que l'on a vécu dans le passé. Alors, on va s'intéresser aux mécanismes qui permettent au sujet, en quelque sorte, de contrecarrer. Ce sont des mécanismes de défense, des mécanismes de résilience. Donc, on va étudier ces mécanismes grâce à un protocole qui a été fabriqué pour cela. Donc, il y a comme particularité de n'utiliser à aucun moment des images traumatiques.
Mais ça, il faut insister là-dessus.
Sur ce point-là, qui est essentiel. C'était un prérequis quand on a commencé à discuter au mois de novembre et décembre dernier du protocole. On a vraiment mis ça en premier lieu. Et on a construit un protocole qui permet de comprendre les capacités qu'ont ou non les sujets à mettre en place ces mécanismes de défense contre ces intrusions. Et donc, on mettra en relation ces mécanismes cérébraux avec d'autres éléments qui seront recueillis à d'autres moments. Alors, bon, ce sera bien sûr dans l'étude 1000, mais ce sera aussi des éléments anamnestiques, les dispositifs de soins dont auront bénéficié les sujets. Donc ça, c'est le lien avec l'étude de Santé publique France. Donc, vous voyez, c'est un programme en soi qui vise à comprendre ces mécanismes de l'état de stress post-traumatique, mais qui, en même temps, est en lien avec les autres projets du programme de recherche. Et là encore, avec la dimension longitudinale. Hein, le but, ce sera de comprendre le devenir de ces personnes au long cours, en les suivant pendant plusieurs années.
Merci Francis Eustache. Denis Péchanski, un dernier mot très vite. Vous cherchez encore des volontaires pour témoigner ?
Oui, on cherche des volontaires et encore une fois des trois cercles en particulier, c'est-à-dire qui habitent la région parisienne, qui soient évidemment témoins, mais qui peuvent être de l'arrondissement, ou bien tout simplement qui sont de la couronne parisienne ou des arrondissements périphériques de Paris. Vraiment,
ouais. Comment on fait pour vous rejoindre ?
Alors, il y a un mail tout simple, mémoire13novembre@matricememory.fr, et sinon, toutes les informations seront à retrouver sur le site de la Tête au Carré, Mathieu.
Merci beaucoup, Denis Péchanski et Francis Eustache, pour ce programme donc, qui vous emmène sur 10 années. Merci Catherine.
Merci Mathieu.
Et il vient de faire son entrée dans ce studio, mesdames et messieurs, Jean-Didier Vincent quand même, qui nous a donné quelques sueurs froides.
Oui, mais je
vous étiez perdu ?
Non, je vais avaler ma montre.
Petit problème de spatialisation dans les couloirs de France Inter.
Puis je suis dans un endroit où on était très tassé par les voitures, là, c'était le jour et bon. Tout ça. Et peut-être qu'ils m'ont pris pour un Anglais ou quelque chose comme ça.
Vous êtes là, tout va bien. On se retrouve dans un instant avec les collégiens qui ont plein de questions à vous poser sur le cerveau.
Ouais, mais je suis très content d'être avec eux. C'est sûrement un public qui pose de très bonnes questions.
Allez, à tout de suite, Jean-Didier Vincent, invité de la Tête au Carré pour le cerveau expliqué à mon petit-fils sur France Inter.
Toi, l'eau qui tombe, qui coule sur ma fenêtre, qu'as-tu vu du monde, qu'as-tu vu de la fête? Cette fois, elle défile les secondes dans ce manège de bois Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. Les plats, des pierres toutes rondes, et même la terre parfois se noie. Je nage dans une eau sombre où il y a longtemps déjà ont coulé les décombres d'un vieux navire de bois.
Sombre, Émilie Loiseau.
Chaque jour, sache-le, s'établit un peu plus précise la carte du cerveau. Dans les champs de l'écorce cérébrale, motricité et sensibilité se localisent. La limite est parfois imprécise, les repères chevauchent, mais peu à peu, pourtant, s'établit le bornage.
Ainsi, l'écorce cérébrale est une mosaïque d'organes nerveux distincts qui sont en rapport avec les différentes parties et les différentes fonctions du corps.
J'étends ma main. Je marche, je parle.
Tous ces actes aboutissent à la face externe du cerveau, autour de la scissure de Rolando.
Je vois.
Et c'est en arrière, dans le lobe occipital, que s'élabore l'image visuelle.
Et dans la zone temporale est la sphère auditive et la mémoire auditive des mots.
Voilà, et c'est un cartographe du cerveau que nous invitons aujourd'hui, Jean-Didier Vincent. Vous êtes notre invité pour un dialogue à bâton rompu autour du cerveau, donc avec les élèves de 4e du collège Saint-Exupéry à Paris. Vous êtes professeur émérite de physiologie à la faculté de médecine de l'université Paris 11 et membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Et donc, vous avez publié en janvier, Jean-Didier Vincent, Le cerveau expliqué à mon petit-fils.
Oui.
Alors, les questions des collégiens et puis évidemment des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Vous êtes donc, vous avez passé un été, c'est ça, à dialoguer avec Constant, c'est le
oui,
nom de votre petit-fils.
Une partie des vacances, puis après on a un peu arrangé ça, mais il a relu, donc je tiens à dire que l'intégralité des droits d'auteur, qui sont considérables, parce que le livre vaut 8 euros, et donc il a droit à 1 euro au moins.
Ouais, c'est son argent de poche, pour plus tard,
ça va être
c'est
plus
son
épargne. D'autant que c'est un petit-fils qui est très bien organisé. J'avais fait la sexualité expliquée à ma fille dans la même collection.
Ouais.
D'abord, ça avait choqué beaucoup le Figaro, qu'un père puisse apprendre la sexualité à sa fille. Mais enfin, bon, ça me semblait au contraire très naturel. Et ces dialogues sont très fructueux parce que les enfants posent en général, enfin les préadolescents ou les adolescents posent des questions qui sont plus pertinentes que celles qu'on entend par exemple dans les universités du troisième âge.
Bon, ben vous allez pouvoir le vérifier, j'espère, dans un instant avec nos camarades. Votre petit-fils qui vous fait penser au petit prince de Saint-Exupéry ?
Ben, c'est vrai, parce qu'il est, un peu, je dirais, à côté de ses pompes.
Oui.
C'est un rêveur. Et il a une vision du monde qui est une vision assez belle. Ouais. Donc, c'est vrai, ça lui va bien d'être le petit prince, si ce n'est qu'il fait maintenant, bien qu'il ait des difficultés à sa naissance avec l'hormone de croissance, il fait 1m90 et
donc, tout va bien.
Il est classé en tennis et en toutes sortes de sports. Donc, rien à voir avec les facultés.
Bon, ben nous, c'est le Collège Saint-Exupéry qu'on accueille aujourd'hui, Jean-Didier Vincent.
Ça tombe très bien.
Pour ce dialogue. Et bon, on va commencer tout de suite avec une première question, parce qu'ils ont bossé pour vous, hein. Je peux vous dire que ça fait deux mois qu'ils y sont.
J'ai vu une liste de questions qui est
c'est incroyable.
Vous n'y êtes pour rien dans la liste de questions.
Rien du tout, moi j'ai rien fait. Aujourd'hui, je me suis dit repos, je fais bosser les collégiens. Voilà,
c'est des questions qui sont très pertinentes.
Voilà. Et Alexandre, c'est toi qui commences. Bonjour.
Bonjour.
Quel âge vous avez tous en moyenne?
Comme j'ai redoublé une fois, j'ai 15 ans, mais sinon on a tous 14 ou 13.
Voilà. Classe de 4e. Alors, la première question, Alexandre, pour ce dossier cerveau.
Est-ce que le cerveau pourrait être comparé à une unité centrale comme ou le
Non, moi ça me gêne cette comparaison parce que dès qu'on compare le cerveau à un ordinateur, on est dans une fausse route. Le cerveau, c'est de la chair vivante, hein. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les fibres, les connexions, les puces ou les éléments digitaux qui constituent un ordinateur. Donc,
pourtant, la complexité, on peut faire l'analogie quand même entre la complexité du cerveau et celle d'un ordinateur.
Le fantasme, c'est plus de voler comme au temps de l'Antiquité. Le fantasme, aujourd'hui, c'est de créer un robot et surtout une unité qui a les propriétés du cerveau cognitives et sensitives et sensorielles.
Hein.
On en est très très loin, bien plus loin qu'on ne l'imagine.
Ouais. Alors Chine, tu as une question aussi. Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence entre les cerveaux des grands génies, par exemple Einstein, ou des personnes lambda comme moi ou d'autres personnes?
S'il y a une différence, elle sera plutôt négative, c'est-à-dire... Un type comme Einstein, il était à la limite des idiots. Hein. C'était,
ah bon, pourquoi?
Parce que c'était un idiot social, quoi. C'était quelqu'un qui parlait bien, qui comprenait tout. Mais en général, il a un rapport au monde qui est un peu différent de celui du commun des mortels. Certains génies sont aussi parfois des autistes, c'est-à-dire des gens qui ont une relation aux autres très, très, très compliquée. Actuellement, toutes nos médailles Field se caractérisent par une certaine originalité. Les médailles Field, c'est ceux qui ont eu le prix Nobel, enfin l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Ils ont une façon d'appréhender les questions qui fait leur force, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la question ordinaire, celle qui vient tout de suite à l'esprit. Ils passent par des biais et ils ont des schémas de raisonnement qui sont quelquefois difficiles à extérioriser. Et au bout de la découverte, qu'ils n'attendent pas ou qu'ils attendent, mais sans véritablement la chercher avec des raisonnements qui pourraient passer pour logiques et préconçus, c'est une vraie joie pour eux, c'est un sentiment d'extase. Ils jouissent exactement comme quand on fait l'amour.
Mais le cerveau d'Einstein en particulier, il a été coupé en tranches, hein, je crois.
On l'a coupé en tranches. On a trouvé qu'il avait...
Il a des choses particulières ou...
Oui, il avait beaucoup de cellules gliales, c'est-à-dire les cellules c'est les cellules qui sont inexcitables. C'est les non-neurones du cerveau. C'est des cellules qui, a priori, peuvent être comparés à l'emballage du cerveau, c'est-à-dire des cellules qui ne transmettent pas par les potentiels d'action, c'est-à-dire les signaux électriques, de communication d'autres cellules. Ils ont par contre des relations très importantes avec les cellules nerveuses proprement dites, qu'on appelle des neurones, et qui, eux, sont excitables, alors qu'une cellule qu'on appelle cellule gliale, n'est pas excitable, mais elle a des fonctions très importantes et intervient notamment même dans les facultés cognitives. Donc, et on dirait que c'est l'emballage qui l'emporte chez lui sur l'utile. En réalité, c'est une fiction pour simplifier. Mais
bon, donc le génie se voit pas comme ça à vue d'œil.
Ça se voit pas du tout comme ça.
Même si on met le cerveau en steak.
Non, non. Ouais. Il y a même des génies de la littérature, c'est autre chose. Mais Anatole France avait un cerveau qui ne faisait que 1100 grammes.
Pour une moyenne de 1500 à peu près.
De 1500.
Ah oui, 400 et puis, grammes en moins quand même. Oui.
Hein. Alors, donc la partie intelligente du cerveau, la partie cognitive, la partie qui sert à raisonner, à penser, Ensuite, à avoir des sentiments, à avoir de la mémoire de travail notamment, toutes ces différentes formes de mémoire, et puis surtout un sens moral, c'est ce cortex préfrontal qui fait 500 grammes en moyenne chez l'humain, alors que chez l'Homo erectus, qui est notre cousin très très proche, il ne fait que 1000 ou 900 grammes. Donc c'est là que s'est passée la révolution humaine. C'est avec, à partir des quelques, il y en a deux ou trois gènes qui jouent un rôle là-dedans pour transformer, pour donner ces 400 ou 500 grammes de cerveau de plus. C'est là ce qui fait toute
ça
la
fait
différence.
Toute différence, ouais. Jean-Didier Vincent, Fanny et son cortex préfrontal ont des questions pour vous.
Bonjour, est-ce que les jumeaux ont un cerveau identique ?
Écoutez, les jumeaux, en principe, sur le plan génétique, ils ont exactement la même chose l'un et l'autre, c'est-à-dire les jumeaux qui ont été conçus à partir d'un seul oocyte, hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle les cellules, les monozygotiques. Donc, ils ont tout pareil, et par ailleurs, ils ne peuvent pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénèse, puisqu'ils sont soumis exactement
voilà,
au même...
Vous prononcez des gros mots, là, j'en dis.
L'épigénèse,
oui,
c'est tout ce que le milieu va faire sur le milieu extérieur, c'est-à-dire le milieu qui entoure l'embryon et le fœtus. Ils vont modifier les propriétés génétiques liées exclusivement aux gènes, ils vont faire la différence. Alors, ils viennent souvent de la mère et ils facilitent l'expression de certains neurones, de certains gènes et pas d'autres. Alors que dans le phénotype, donc, quand il y a des neurones, des gènes qui sont séparés, qui sont distincts, quand c'est hétérozygote, ils sont différents parce qu'ils ont un génome différent, donc ils ont ce qu'on appelle un phénotype différent. Ça ne pose pas de problème. Mais chez les vrais jumeaux, on a exactement le même résultat.
Sauf
c'est
que
après que ça va se passer.
Voilà, c'est ça, parce qu'ils vont se construire différemment.
Ils
après.
Se construisent. Vous savez, vous devez connaître un monsieur très sérieux qui s'appelait Emmanuel Kant. Vous avez entendu parler de lui. Vous n'êtes pas encore en philosophie, mais c'est
un peu tôt peut-être
loin,
au collège.
Oui,
ça va arriver. Mais ne vous inquiétez pas.
Une
ça va
vieille
arriver.
Barbe très sérieuse qui a conditionné pratiquement toute la philosophie du monde après son passage sur Terre. Et il dit que l'homme naît deux fois. Il naît une fois du ventre de sa mère et la deuxième fois de l'éducation qu'il reçoit. Donc c'est à partir de là qu'on va construire deux individus différents. Donc une méthode de savoir si un trait de comportement ou un trait physique est génétique ou épigénétique ou phénotypique, eh bien c'est de les séparer. Alors, on compare des jumeaux qui ont été séparés à la naissance pour que l'influence du milieu ne soit pas, n'est pas modifiée. Mais bon. Paradoxalement, quand ils vont se retrouver, quand un homme retrouve sa jumelle qui ne le sait pas, il y a immédiatement une attraction spontanée entre eux qui font qu'il y a eu une reconnaissance qui est olfactive, qui est toutes sortes, liée à toutes sortes de facteurs.
Quentin, Fanny, Chine, Simon, ça va, c'est pas trop compliqué ? Vous suivez à peu près ?
Vous comprenez, n'hésitez pas à m'arrêter.
Faut lui dire, hein, quand il y a des mots compliqués,
non,
vous l'arrêtez.
Non mais honnêtement, voilà. J'aimerais bien que... Non, parce que les chercheurs ou pseudo-savants qui parlent beaucoup aiment bien s'entendre parler, mais
oui,
quelquefois ils ne font pas attention à...
Vous avez le droit d'appuyer sur le buzzer, vous voyez, quand il y a des mots comme ça qui prononcent...
Alors, vous m'interrompez, vous dites, mais c'est quoi, allez-y.
Voilà. On va souvent vous interrompre, Jean-Didier Vincent. Vous
revenez. J'en suis ravi.
Allez, deuxième partie dans un instant.
Get down on your knees again. something means that you are stuck outside. Cover your eyes. Often a humble kind, but he can't deny he was born to blow your mind. Or something along those lines tonight. Tell him what you want.
Last Shadow Puppets avec Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Au carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
C'est compliqué de connaître son cerveau, Jean-Didier Vincent, non ?
Oui, c'est même, ouais. c'est même une illusion, celui qui vient de parler avec sa voix scientifique, si autoritaire.
Oh, mais arrêtez de tout critiquer.
Mais
enfin,
je ne critique pas tout, mais enfin, écoutez, la meilleure façon de se connaître, c'est de connaître son cerveau. Son cerveau ne le connaîtra qu'à l'autopsie, on ne pourra pas y participer, vous comprenez ?
On peut l'imaginer, par contre.
Mais on peut l'imaginer.
Voilà. Comme l'imaginent d'ailleurs nos collégiens du lycée Saint-Exupéry, qui sont là pour vous poser des questions, et c'est Émile qui s'y colle. Bonjour Émile.
Bonjour.
On t'écoute.
Quelle est la première partie du cerveau qui se développe chez l'embryon et le fœtus, et quel est son rôle ?
Ouais. Et à partir de quand ça arrive, ça ?
Mais écoutez, dès qu'il y a une des deux cellules, c'est-à-dire ce qu'on appelle un zygote, qui est fait d'une cellule mâle et d'une cellule femelle, il y a donc deux noyaux, et avec ça, ça va se cliver en deux cellules. C'est les premières cellules de ce qu'on appellera le zygote, c'est-à-dire l'embryon.
Mais le cerveau en lui-même ?
Mais le cerveau en lui-même, il n'apparaîtra qu'au début de la quatrième semaine.
C'est, ah oui ?
Du quatrième mois, hein, ouais. Voilà, c'est au quatrième mois. Jusque-là, il n'est pas développé. Il va, à partir du début du quatrième mois, il va y avoir ce qu'on appelle la corde neurale. C'est un sillon qui contient l'ébauche du futur cerveau, avec la partie antérieure et la partie caudale qui constituera la moelle épinière.
Oui.
C'est intelligent, parce que, vous voyez, d'avoir dit ça, Saint Thomas, qui n'était pas un sot, a dit que l'âme ne venait dans le cerveau qu'à partir du quatrième mois.
Ah, bien vu,
il a,
bien vu.
Il avait une belle intuition.
Ouais, c'est-à-dire, avant quatre mois, c'est pas la peine de parler au ventre de sa femme ou...
Non, il y a des sensations, mais enfin... il faut mieux commencer à parler à partir du quatrième mois. Il faut s'économiser, voilà, parce qu'après la conversation va se faire rire.
C'est ça. Simon, une question de ta part. Bonjour.
Bonjour. Pourquoi les parties du corps sont inégalement réparties dans l'aire motrice ?
C'est une loi fondamentale qu'on a découvert quand on a pu stimuler les différentes régions du cerveau. C'est un monsieur qui s'appelait Penfield, qui était canadien, et qui a promené à l'occasion d'interventions d'ouverture du cerveau pour soigner l'épilepsie. Il stimulait les différentes régions du cerveau. Alors, il y a le cerveau est divisé, si vous voulez, sur le front antéro-postérieur, par une scissure qu'on appelle la scissure médiane ou la scissure de Rolando. On aime beaucoup donner des noms quand on est en physiologiste. La scissure de Rolando. En arrière de la scissure de Rolando, il y a tout ce qui est réception, sensoriel, le toucher, la sensibilité des muscles, etc. C'est la somesthésie, ça s'appelle ça, la perception du corps. Et à l'avant, il y a ce qu'on appelle la motricité du corps, les éléments moteurs, qui occupent toute la scissure de Rolando. Alors, quand on stimule point par point ces différentes régions, on se rend compte que selon les points que l'on stimule, on va avoir une réponse dans le côté contralatéral du corps. C'est-à-dire que si vous stimulez en avant de la scissure de Rolando dans le cerveau droit ou dans le cerveau gauche, si vous voulez, pour prendre l'exemple du cerveau gauche, vous allez obtenir des réponses motrices dans le côté droit. Voilà. Alors, ces réponses motrices...
Pourquoi c'est inversé ?
Parce que les voies qui vont du cortex au muscle sont croisées. Alors pourquoi sont-elles croisées ? Ça, c'est toute une affaire. Ça nous entraînerait trop loin sur la logique du développement. Mais donc, quand vous stimulez une région basse, par exemple, de cette scissure de Rolando, vous allez avoir une réponse en général du côté de la bouche. Puis après, vous avez des réponses sur les mains, sur les doigts. Après, vous avez les membres supérieurs, qui sont très importants. Puis après, ça devient de plus en plus maigre. Autrement dit, ce petit homoncule, on appelle ça un homoncule par référence à...
C'est pas un gros mot, hein, vous inquiétez pas.
Est-ce que... Non, c'est pas...
Mais tout le monde a eu peur.
C'est pas haut point d'exclamation. C'est homoncule, H-O-M-O.
Vous avez le droit de le dire à l'école, ça. Hein.
Voilà. Alors, l'homoncule, c'est une représentation, et c'est plutôt un petit individu dans la légende moyenâgeuse, ou même plus tard, chez les magiciens, les mages, ou les alchimistes, c'est un petit homme, une reproduction d'homme, ou alors une grande reproduction, comme le golem, qui reproduit un homme, mais qui n'est pas un homme. Alors c'est cet homme artificiel qui va accompagner son maître. Et en général, il est monstrueux, il a une grosse tête, il a de grosses lèvres, il a des grosses mains avec un énorme pouce, et puis des doigts plus petits,
oui, il est
puis
bizarre,
après
ouais.
tout. Donc, ce qu'on regarde, et ce qu'on donc, conclut d'un seul coup, c'est que la surface représentée par une partie du cerveau est proportionnelle dans sa représentation sur la structure de Rolando dans l'homoncule. Autrement dit, après, on verra quand on s'élève vers la scissure médiane, on verra des territoires qui seront de moins en moins représentés, ouais. Les membres inférieurs, et même les membres inférieurs, ils vont tomber sur la face interne du cerveau.
Ça veut dire quoi, Jean-Didier Vincent Confond ? Il y a une cartographie, c'est ce que
vous
nous décrivez.
Il y a une cartographie fonctionnelle.
Avec vraiment des régions très
Absolument.
Précises, dédiées à des fonctions très particulières,
voilà.
Et que ça ne bouge jamais ?
Et ça ne bouge pas. Il y a des modifications à l'intérieur du territoire,
ouais.
C'est-à-dire qu'un pianiste aura un développement du pouce qui sera plus important, un musicien aura peut-être un développement plus grand des oreilles, non l'exemple n'est pas très bon, mais un avocat aura une langue beaucoup plus
N'importe
épaisse,
quoi.
Etc. Vous voyez, c'est la représentation, le territoire qui représente la partie du corps est d'autant plus important qu'elle concerne une région qui fonctionnellement
D'accord.
très active,
bon.
C'est-à-dire les mains et les doigts.
Enfin, le coup de la langue chez l'avocat.
La langue, parce que c'est un qui sert à parler, et que parler chez l'homme, c'est important, les grosses lèvres, etc. Ouais. Tout ça développé.
La
Alors,
vôtre
quand
est
on recule
plus,
en arrière,
plus longue que la moyenne, Jean-Didier Vincent
Moi, j'ai une grosse langue.
Ouais.
Quand vous allez vers l'arrière, ça devient flou. Vous voyez, c'est très mince.
Ouais.
Parce que les muscles du dos, ils ne représentent pas grand-chose. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, là, alors, ce
vous
qu'il faut
droit
retenir...
Vous aussi. Hein.
Vous non, non, mais vous pouvez m'arrêter.
Parce que quand
mais
il est parti, on peut plus
c'est
l'arrêter.
C'est très important. Parce que quand l'homoncule, il a la tête en bas...
Alors voilà.
Et il va regarder en face.
Oui.
Il regarde derrière, plutôt.
Bon.
Il regarde la scissure Rolando. Et en face, justement, de lui, il y a un homoncule sensoriel, où sont représentées les sensibilités des différentes
très
régions.
Fanny, une question
deux
à vous
homoncules.
Poser. Voilà.
Il faut vous débrouiller avec ça.
Fanny, une question à vous poser, Jean-Didier
Vincent.
Quelles
sont les différences entre le cerveau d'un animal et celui d'un humain ?
Les différences ?
Oui.
Ah, c'est énorme. D'abord la taille, hein, parce que c'est le plus gros cerveau proportionnellement au poids. Hein. Un cerveau d'éléphant est plus gros qu'un cerveau d'homme. Mais si vous le rapportez à son poids ou à la surface de son corps, il est relativement petit. Hein.
Mmh.
Le cerveau de baleine est relativement gros par rapport à sa taille, qui est énorme, parce qu'il est peut-être plus intelligent.
En moyenne, un cerveau de baleine, on a une idée.
Un cerveau de baleine, ça dépend de la baleine.
Oui,
mais
bon.
Un cerveau de grosse
baleine
c'est,
bleue,
c'est 3-4 kilos. Quoi.
Ouais.
Donc, Donc il n'y a pas, mais on a cherché justement, il y a des gens qui sont un peu fascisants, à mesurer la taille des cerveaux chez les individus,
ouais.
Et dire que selon les races, les cerveaux sont plus ou moins plus ou moins importantes. Par exemple, le cerveau des Asiatiques est plus lourd, serait plus lourd que le cerveau.
Tout ça, c'est des âneries. Comme la question des races. Jean-Didier Vincent, c'est le nombre de neurones, au fond, qui est le plus important, ou pas?
Ah, c'est le nombre de neurones dans une région, effectivement, surtout qu'on sait maintenant que les neurones, on en fabrique toute sa vie. C'est Pierre-Marie Liédot, dans mon laboratoire, qui a été le premier à le découvrir. Il y a ce qu'on appelle une neurogénèse chez l'adulte. Alors, le nombre de neurones, c'est quand même presque 100 milliards, hein. Donc, ça compte beaucoup. Donc, c'est difficile à comparer ça à un ordinateur. Il y a beaucoup plus de composants dans un cerveau que dans un ordinateur ordinaire.
Allez, on va écouter l'histoire du Mireille. Je crois que c'est l'histoire d'une mouche, hein, si mes souvenirs sont bons, avec Dick Angarn. Et puis, on vous retrouve juste après Jean-Didier Vincent.
De votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. Le soir, elle se couche, à l'aube, elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille, pour bonne conduite et libérée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on sort de prison? Dans une poche une mouche, dans l'autre quelques ronds. Si je me faisais denteur de puce, des cafards et d'abeilles, je me ferais manager. La bête de scène serait Mireille. Oh ouais! Voyons ce que ça donne, voyons si tu étonnes les clients de ce bistrot. Mireille va faire ton numéro. Tiens, une mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche. Mireille.
Mais les souvenirs vraiment importants sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la mémoire centrale. Elle contient tous les souvenirs vraiment importants dans la vie de Riley. Comme quand elle a marqué pour la première fois. Oh, c'était incroyable! C'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley. Comme l'île du hockey. Mais ma préférée, c'est l'île des bêtises.
Viens ici tout de suite, petit singe.
Oui, l'île des bêtises est géniale. Mais l'île de l'amitié est sympa aussi. Et bien sûr, l'île de la famille est super.
Tiens, goûte les biscuits, papa. Voilà.
Enfin, voilà quoi. Ces îles de personnalité font que Riley est Riley.
Attention, regarde devant.
C'est le dernier mot.
Voilà, Jean-Didier Vincent, c'est un extrait de Vice-Versa. Vous l'avez vu d'ailleurs, les camarades du collège Saint-Exupéry? Ça vous avait plu? Candela, par exemple, tu te souviens de ce film? C'est sorti quoi l'année dernière? Il n'y a pas longtemps. Hein.
Ouais, je crois.
C'était autour du cerveau. Voilà, le cerveau qui s'exprimait. Voilà, faudrait qu'on aille le voir, Jean-Didier Vincent.
Voir, ouais.
Alors, la prochaine question, c'est Candela d'ailleurs, je crois, qui la pose. On t'écoute.
Oui. Du coup, est-ce que le fait de bien dormir a-t-il une influence sur la mémoire?
Ah, question du sommeil.
Oui, c'est une question fondamentale.
Surtout chez les ados, d'ailleurs.
Oui, d'abord, il y a une question de santé. C'est vrai que le sommeil est directement lié à la santé et au métabolisme du cerveau qui est dépendant d'un bon sommeil. Mais ensuite, il y a le fait que, notamment certaines phases du cerveau, comme le sommeil paradoxal, c'est-à-dire des phases qui viennent entrecouper le sommeil normal, qui correspondent, semble-t-il, à une activité onirique, mais ça, c'est peut-être pas toujours la règle, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une activation de certaines structures qui sont très impliquées dans la mémoire, qu'on appelle le fameux hippocampe, qui est responsable de pas mal de parties de la mémoire et qui donne des amnésies quand elles sont détruites. Alors, le sommeil paradoxal vient en quelque sorte fixer les souvenirs. Il a un rôle de sauvegarde, de mémoire, de conservation de la mémoire,
de fabrication des souvenirs. Hein.
D'où l'importance de bien dormir. Et puis en plus, après, il y a toute une série de phénomènes qui indiquent qu'il faut bien dormir.
Fanny, est-ce que ton sommeil est bon la nuit ?
Ouais. Oui.
T'arrives à te coucher tôt ou pas ?
Oui.
Ouais, sans trop regarder sur ton ordinateur ou ton smartphone. Ah, dis donc. Alors ta question, s'il te plaît.
Est-ce que les somnifères agissent sur le cerveau et si oui, est-ce que c'est dangereux ?
Les somnifères ?
Oui.
Ah, les somnifères. Moi, je suis un peu abruti aujourd'hui parce que j'ai pris un peu de l'Axomil hier soir tellement j'étais énervé.
Et c'est pas nous qui vous avons énervé.
Non, c'était pas à cause de ça, mais moi, il m'en faut presque peu parce que j'en prends pas souvent. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'habituation.
Ah, mais c'est ça, votre retard, en fait, tout à l'heure.
Oui, c'est à peu près ça.
Vous sortiez du lit, en fait.
J'étais abruti. Donc, je me réveille petit à petit. Non, les somnifères, j'ai dirigé j'étais le premier en France d'ailleurs à avoir un laboratoire du sommeil où on vient faire dormir les gens au laboratoire pour voir si leur sommeil est normal ou anormal. Mmh. Alors il y a pas mal de pathologies du sommeil, il y a narcolepsie, il y a tout ça, je vous en parlerai pas. Mais les somnifères sont à proscrire absolument, mais quelquefois, quand le stress est tel qu'il faut un peu intervenir, on peut prendre ce qu'on appelle des benzodiazépines, mais il faut en prendre pour le moment, pour réamorcer la machine à dormir.
Oui.
La machine à dormir, par contre, je vous conseille de bien bailler, parce que vous voyez, bailler, ça fait circuler le liquide céphalo-rachidien qui monte au cerveau et transporte comme ça, c'est la vieille théorie des fluides dans le cerveau, ça porte de l'adénosine, oui, qui est une substance qui est fabriquée par l'énergie, par la dépense, et qui induit le sommeil.
Vous voyez, c'est contagieux. Il y a Alexandre qui nous a fait un beau bâillement, c'est tout à l'heure,
voilà,
je l'ai vu.
Eh bien, c'est bien.
Je peux en témoigner.
Vous savez quel est l'animal qui ne baille jamais ?
Ah oui, quelle est la réponse ? Chine ? Le micro pour la réponse. Quel est l'animal qui ne baille jamais ?
La girafe.
Bravo !
Ouais, oh là, bravo ! Alors là,
il me blague.
Bravo !
Ah là 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 ! Oui, c'est le seul animal. Et c'est parce qu'il a une grande colonne hydrique de liquide céphalo-rachidien que ça sert à rien. Il ne peut pas arriver à monter jusqu'au cerveau les substances qui font dormir. Alors bon.
Il a lu votre livre ?
Ah, je le raconte dans mon livre, ça ?
Ben, c'est pour ça qu'il le sait.
Ah oui, peut-être.
Non, j'ai appris
alors.
Ça
ouais,
je le savais, mais c'était pas en regardant, en lisant un journal.
Ah bon, c'était même pas dans le
film. Scientifique.
Voilà.
Prochaine question, Simon.
Oui.
C'est à toi.
C'est pourquoi les animaux ne peuvent-ils pas parler ?
Pourquoi ils ne peuvent pas parler ? D'abord parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour parler, ils n'ont pas l'appareil vocal pour fabriquer, articuler les sons qui vont donner par le système de la double articulation que je vous expliquerai pas, de fabriquer un langage qui est compréhensible par les autres. Et après, évidemment, le contact avec les autres, hein, c'est très important, les autres. Ça me donne l'occasion, parce que j'aurais pas le temps de dire que l'homme a besoin de l'autre. Hein. Il ne peut pas vivre seul. S'il vit seul, les enfants qui n'ont pas été mis en contact avec l'homme avant l'âge de 5 ans, ils deviennent des enfants, souvent des enfants loups, ou les enfants qui ont du mal de la communication avec l'autre, comme les autistes ont quelquefois du mal à apprendre, qui ne sont pas dans la période critique où on apprend à parler. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. De toute façon, pour que vous soyez un homme, il faut que vous échangiez des sentiments, de l'affect et des paroles avec l'autre. Ça sert à ça, ça sert à parler à l'autre. Et c'est ça qui fait de vous un homme. Si vous restez enfermé dans votre caverne pour le restant de vos jours et que vous laissez pousser la barbe, vous ne serez jamais un véritable homme. Oui,
c'est vrai qu'elle a poussé votre barbe depuis la dernière fois.
Oui, elle est même plus longue que la vôtre.
Oui, c'est vrai.
Oui.
On va mettre une photo sur Facebook. Alors, dernière question du Collège Saint-Exupéry. Quentin, c'est à toi.
Bonjour
Quentin.
Ma question, c'est pourquoi quand nous sommes enfants, nous avons plus de facilité à apprendre les langues ?
Ah oui, c'est une bonne question, excellente question, parce que vous n'avez pas le cerveau encombré par une langue, vous pouvez en apprendre plusieurs, parce que vous avez justement tout ce qui se passe dans le cerveau pour apprendre à parler est encore à développer, parce que le cerveau, au moment de l'enfance, et notamment à cette période qu'on appelle une période critique où on apprend à parler, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de fabriquer des neurones et de mettre des connexions qui vont vous permettre de parler.
Tu parles combien de langues, toi, Quentin ?
Alors, moi, personnellement, j'en parle qu'une.
Laquelle ?
Je parle le français.
Ah, tu parles qu'une seule langue, pas du tout de langue étrangère, là ?
Enfin, j'ai quelques notions de portugais, parce que c'est ma langue d'origine, et sinon, l'anglais et l'espagnol.
Ah, ça fait déjà deux, quand même, alors ?
Enfin, je les parle pas couramment.
Ouais. Et tu parles aussi un peu anglais ?
Oui, parce qu'on va à l'école, et espagnol aussi.
Et un peu espagnol, voilà. Donc, l'enfant qui ne parle pas de langue en parle quatre, quand même, en réalité.
Je les parle pas couramment.
Allez, une dernière question, qui veut la poser ? Est-ce que c'est Simon, Candela ? Je crois qu'il y a Daisy, voilà, qui avait une question. Daisy, c'est à toi.
Est-ce que tout le monde a le même nombre de neurones ?
On disait 100 milliards à peu près en moyenne dans le cerveau,
j'en dis 100 milliards, peut-être un peu moins. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à les compter, mais il y en a qui ont manifestement moins de neurones. Moi, je fais partie d'une association des trois neurones. On est pourtant très intelligents. Mais
ça ne fait pas beaucoup, ça. Et on entre quand même à l'Académie des sciences avec trois neurones.
Dès qu'il y en a un qui est malade, mais il en faut au moins trois pour faire ce qu'on appelle un acte réflexe. Il faut donc un neurone qui reçoit, un neurone qui fabrique et un neurone qui fait le contact. Avec ça, vous faites un réflexe. C'est le début. Mais après, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Désir. Oui.
Est-ce que c'est un gage de l'intelligence ?
D'avoir beaucoup de neurones ?
Oui.
Moi, je crois qu'il faut faire avec pas mal de neurones. Vous savez, et une façon de développer son intelligence, c'est de multiplier le nombre de neurones. Notamment chez l'adulte. Même un vieillard comme moi fabrique encore des neurones. Donc, quant à moi, ce qu'on racontait, que les neurones, on les avait à la naissance et qu'après, ils n'avaient plus qu'à mourir et attendre que ça se passe, eh bien, on en fabrique toujours dans certaines régions.
Et ça, c'est réjouissant de le savoir.
Et c'est bien de le savoir.
Et on va rester sur cette bonne nouvelle, d'ailleurs.
C'est la plasticité du cerveau qui est inégalable.
Voilà, Jean-Didier Vincent, Le cerveau merci. Expliqué à mon petit-fils, c'est aux éditions du Seuil. Et merci pour ce dialogue avec les élèves du lycée Saint-Exupéry, du collège, pardon, Saint-Exupéry.
Pardonnez mon retard, nous aurions pu en dire davantage, mais ce sera pour la prochaine fois.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Sciences et Médecine du Monde.
Pierre qui a fait son entrée dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'été.
Oui Mathieu, l'été qui va bien finir par arriver, mais est-ce vraiment une bonne chose ? À en croire plusieurs travaux, l'augmentation de la température en période estivale n'a pas que de bonnes retombées. Quand le thermomètre monte, l'agressivité monte aussi. Mais alors comment mesure-t-on cela, me direz-vous ? Il y a bien eu des expériences en labo, au cours desquelles on réunissait des hommes et des femmes dans une pièce avant de les passer au bain-marie. Cependant, comme l'a fait remarquer en 1986 une savoureuse étude américaine, dans un labo, la réponse des cobayes peut être biaisée s'ils devinent l'intention des scientifiques, ce qui n'est pas trop difficile quand le lieu où on les a parqués prend des allures de grippe. Alors les deux auteurs de cette étude, qui fête ses 30 ans cette année, ont eu l'idée d'observer à leur insu quelques spécimens d'Homo sapiens dans l'environnement le plus naturel qui soit, à savoir leur voiture.
Leur voiture.
Mais oui Mathieu, l'automobile est l'endroit idéal pour tester l'agressivité d'un individu soi-disant civilisé. Elle donne à son courageux propriétaire un sentiment de protection et de puissance, et la possibilité d'une fuite facile en cas de conflit. Plusieurs travaux ont ainsi mis en évidence que le seuil de déclenchement des hostilités en bagnole est particulièrement bas. Fort de ce constat, notre duo de chercheurs a imaginé un habile stratagème. Mis en place pendant plusieurs mois à Phoenix, cette ville de l'Arizona présente l'avantage de voir la température dépasser assez facilement les 35 voire les 40 degrés. Alors du mois d'avril au mois d'août et donc du printemps au cœur de l'été, tous les samedis entre 11h et 15h, on pouvait croiser une conductrice un peu particulière qui se plantait à un carrefour et oubliait d'avancer pendant tout le temps où le feu était vert.
Très énervant ça, hein.
Et oui, et comme il n'y avait qu'une file dans cette rue, impossible de doubler. Cette dame était bien sûr une complice des chercheurs. Un observateur caché notait tout, le nombre, la durée des coups de klaxon et surtout si la vitre des klaxonneurs était baissée, ce qui indiquait qu'il n'y avait pas de climatisation dans le véhicule. Alors le résultat de cette prise d'otage par des scientifiques pervers est une belle courbe bien linéaire. Plus la température grimpe, plus les coups d'avertisseurs sonores se font longs et rageurs. L'étude note ainsi qu'au-delà de 38 degrés, un tiers des sujets passaient plus de la moitié de leur temps à faire pouette, ce qui n'arrivait jamais en dessous de 32 degrés. Les chercheurs ajoutent que plusieurs conducteurs ont ajouté au klaxon, je cite, « d'autres signaux verbaux et non-verbaux d'hostilité ».
On imagine.
En l'absence de plus amples précisions, je vous laisse deviner lesquels.
Voilà, et tout tout ça fait l'objet d'études scientifiques extrêmement sérieuses, Pierre Barthélémy. On retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui même. Qu'y a-t-il d'autre au programme du supplément ?
Alors, quelque chose de bien plus sérieux. Cette semaine, le dossier est consacré aux microtubules, ces filaments microscopiques contenus dans nos cellules qui sont des éléments indispensables à la vie.
Et donc, c'est cet après-midi dans les kiosques. Merci beaucoup, Pierre Barthélémy. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de science improbable. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Et ce sera Affaires Sensibles avec vous juste après les infos. Quel en sera le thème aujourd'hui, Fabrice ?
Mein Kampf, puisque le livre est dans le domaine public depuis janvier dernier. La vraie question, c'est faut-il le lire comme ça, tel quel, ou avec un outil pédagogique d'historien. Voilà, nous en parlerons avec notre invité qui est un historien, Christian Ingrao, qui est pris parti pendant l'automne 2015 pour une publication de Mein Kampf en France, mais commenter.
Allez, descendez au cinquième étage et on vous retrouve dans un instant pour Affaires Sensibles. Merci à Serge Viguier qui était à la technique et merci aux collégiens de Saint-Exupéry qui étaient avec nous. Passez un très bel été. Merci d'avoir bossé pour cette tête au carré sur France Inter, il est 15h.